étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 18e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone l'auteur picard de naissance et désormais catalan Pascal Alliot, dont les 3e et 4e romans « Dies Irae, Jour de colère » et « Jusqu'à l'os » sont parus respectivement le 15 avril 2024 aux éditions Maya et le 10 juin 2024 aux éditions Sans Pitié. Pascal, bonsoir.
Bonsoir à vous. Merci de me recevoir dans votre émission. C'est un grand plaisir.
Plaisir partagé. Vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente?
Auteur. Auteur, car ça définit plutôt un travail où on crée quelque chose, alors qu'écrivain, on écrit, c'est un petit peu rébédatoire. Et l'autre, je ne l'aime pas du tout. Voilà.
Quel rapport aviez-vous avec l'écriture et la lecture lorsque vous étiez enfant?
Lorsque j'étais enfant, j'étais déjà un très grand féru de lecture. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bien sûr, quand on est jeune, on ne lit pas les grands classiques. Mais avec les années, je suis arrivé à lire quand même pas mal de bons livres. J'ai découvert Jules Verne, comme tous les pré-adolescents, des choses comme ça. Et petit à petit, ça a pris vraiment une taille importante dans mon existence.
Quel genre, quelles autrices, quels auteurs avaient votre préférence, à part Jules Verne?
Plus tardivement, c'est que j'ai quand même beaucoup aimé Céline. Et ben quand même, j'ai eu un choc, hein, comme avec Voyage au bout de la nuit, qui a quand même été quelque chose d'hallucinant pour moi, quelque chose d'important, de capital. L'impression de découvrir vraiment un autre monde, un autre univers, comme quoi on pouvait faire des choses remarquables, terribles, avec juste quelques mots. Ensuite, il y a bien sûr Stevenson, il y a toute la vie de génération. J'ai été vraiment très happé par Kerouac, par Bogus, par tous ces gens-là, bien évidemment. Le Festanu, Bogus, m'a marqué au fer rouge, comme on pourrait le dire royalement. Et Kerouac, sur la route, enfin, ce genre de choses, l'écriture immédiate, qui d'ailleurs va me marquer dans ce qu'on pourrait appeler mon style, si je peux avoir la prétention de dire ça. Et donc, voilà, je pense que c'est quand même les grands, grands amours de moi. Et Voyage au cœur du ténèbre, bien évidemment, qui a été un roman merveilleux, très court, qui était en plus a été adapté au cinéma d'une façon remarquable, hein. Apocalypse Now, bien évidemment, de Coppola. Donc là, c'est quelque chose de capital pour moi.
L'envie d'écrire des romans est arrivée quand?
Très récemment. Elle était toujours présente dans mon esprit. J'imagine, à l'adolescence, déjà, je racontais des histoires, des petites scénettes, des choses comme ça. Mais j'avais dans l'idée d'écrire. Puis ça s'est développé il y a, je vais vous dire, 4 ans, 5 ans, 4 ans environ maintenant. Voilà, ça s'est mis en place comme ça. Naturellement, un matin, je me suis dit, allez, j'y vais. Et en 15 jours, j'ai écrit mon premier roman, le journal ordinaire d'assassin pas ordinaire, qui a été publié. J'ai eu la chance de trouver une maison d'édition assez rapidement. Et il est sorti, il est nommé d'ailleurs pour le prix Découverte de la Vivre, qui sera d'ailleurs révélé d'ici quelques jours. Alors peut-être que d'ici quelques jours, si j'ai beaucoup de chance, j'aurai un premier prix pour un premier roman. Ce sera pas mal.
Au début, vous aviez forcément envie d'écrire des thrillers?
Pas du tout. Ça s'est passé assez bizarrement. J'avais envie d'écrire des histoires de la vie de tous les jours, que j'ai d'ailleurs fait plus sur Dalvire et Jour de colère, mais il est vrai que sur les premiers romans, je n'avais pas du tout l'intention de partir dans cette direction. Ça s'est fait par hasard, puisque j'ai une méthode d'écrire où je ne fais pas de plan, je me suis mis à écrire et c'est venu comme ça. Au creux des histoires, jour après jour, un thriller est né, donc Journal ordinaire d'un assassin pas ordinaire, qui est venu au monde comme ça. Voilà, tout simplement. Et après, vu qu'il a été accepté par une maison assez rapidement, j'ai eu beaucoup de chance, contre d'éditeur. Je reconnais que j'étais chanceux, car beaucoup de gens galèrent dans ce milieu pour trouver un éditeur, ou que ce soit alors sont auto-édités, ce qui est aussi un parcours du combattant relativement complexe, ou de l'édition, comment ça s'appelle, un contrat compte d'auteur, où là, il faut participer financièrement. Moi non, j'étais pris par une petite maison d'édition, Lazare et Capucine, que je remercierai jamais assez, et qui m'a offert cette chance-là. Et donc, j'ai continué après, donc dans le roman noir, thriller, et là, de plus en plus noir, et de plus en plus thriller d'ailleurs.
Ouais. Vous êtes archéologue, céramologue et habitez à Mataró en Catalogne. En quoi l'Espagne et la Catalogne vous inspirent pour l'écriture?
C'est surtout la montagne. Je suis quelqu'un, si vous avez lu les romans, enfin, ça ne se voit peut-être pas dans les deux que vous avez lus. Il y a toujours quelque chose qui a trait à la montagne, au paysage de la montagne, aussi une certaine forme de sérénité qu'on découvre en parcourant la montagne, ce que je fais assez régulièrement. En randonnée en montagne, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Et donc forcément, mes écrits s'en ressentent, justement, de cette ambiance-là, de cette sérénité-là.
Quel parallèle feriez-vous entre votre travail d'archéologue et le travail d'auteur romancier? Dans tous les cas, vous racontez des histoires?
Oui, je raconte des histoires. Et aussi, l'archéologie m'a servi aussi pour un de mes romans qui pour le moment n'a pas rencontré peut-être une certaine forme de succès, mais qui est sorti. C'était mon second à avoir été édité, Père Mange T'es Mort, où je joue un petit peu comme Fred Vargas, qui était d'ailleurs aussi archéologue. Qui est toujours quelque part à l'arrêter, je crois, maintenant, vu le succès de ses livres. Et j'ai justement décrit des scènes qui étaient attrayées, notamment au néolithique, des cercles mortuaires du néolithique. Donc, quelque chose qui, je peux récupérer des choses que j'ai vues, que j'ai étudiées, sur lesquelles j'ai travaillé, ou que j'ai côtoyé, effectivement, dans certains écrits. Donc, l'archéologie, c'est aussi un travail de recherche scientifique, de passion scientifique. Donc, je crois que quelque part, c'est assez lié, parce que ma façon d'écrire, peut-être, l'est aussi dans ce sens-là, où j'aime bien décrire les choses, où j'aime bien aller à l'essentiel, aller essayer de comprendre un petit peu le personnage profond de chaque personne.
Archéologue est un métier passionnant et qui prend beaucoup de temps, j'imagine.
Oui.
C'est la raison pour laquelle votre premier roman est paru l'année dernière seulement?
Tout à fait, parce que j'avais quand même pas mal travaillé en France pendant pas mal d'années. Je suis arrivé en Espagne, enfin, j'ai un parcours assez chaotique ces dernières années. Mais c'est vrai qu'en France, j'avais travaillé pendant de longues années à l'INRAP, que vous connaissez peut-être de réputation, l'Association de recherche archéologique préventive, où j'ai passé plus de 10 ans de ma vie, à peu près environ 10 ans, on va dire, chez eux. Et j'ai travaillé aussi pour deux services municipaux d'archéologie à Toulon et un autre à Toulouse. Donc il y a eu tous ces choses-là qui se sont mises en place. Donc c'est vrai que pour écrire, je n'avais pas le temps. Ces derniers temps, je fais de la sérologie pour une équipe qui est basée à l'Université Autonome de Barcelone. J'ai plus un peu plus de tranquillité. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me mettre aussi un petit peu à l'écriture et donc justement pouvoir publier ce que je pourrais appeler mes œuvres.
Depuis, vous êtes très prolifique, hein, puisque un deuxième roman, Terre, Mange des Morts, paru le 2 février 2024 aux éditions de H. On vous retrouve le 15 avril 2024 aux éditions Maya avec un troisième roman, Dies Irae, Jour de colère, et un quatrième roman, Jusqu'à l'os, paru le 10 juin 2024 aux éditions Sans Pitié. Vous aviez envie de rattraper votre retard, là?
Ben, c'est un petit peu ça, donc je sais pas, je pense que l'écriture m'est tombée dessus, vraiment, j'ai eu enfin l'opportunité de pouvoir faire ce que peut-être quelque part j'ai toujours envie de mettre en place. Et voilà, ça y est, l'aventure est partie. Le premier roman, le Journal ordinaire, a été écrit en 15 jours. Terre Mange T'es Morts a été écrit en 3 semaines. Daisyra est un petit peu plus long à moi. et les autres, pareil, le même rythme. En fait, voilà, j'écris comme ça vient, tous les jours, une chose différente, un chapitre différent, j'ai pas de plan précis sur la façon d'écrire, c'est quelque chose de très direct chez moi. Chaque jour apporte sa peine, chaque jour apporte ses mots, chaque jour apporte ses personnages et leur évolution, leur histoire.
Vos romans ont un point commun, c'est leur noirceur, c'est un peu votre marque de fabrique. Rassurez-moi, on ne la retrouve pas chez vous?
Non, pas du tout, je suis quelqu'un de très épanoui, j'ai des amis, je sors, j'ai une vie tout à fait normale, j'ai une famille aussi, non, ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de tout à fait normal et fréquentable, je vais pas venir demain dans votre studio vous faire peur, ça c'est sûr.
De noirceur, donc il en est également question dans votre troisième roman, Dies Irae, on prononce comme ça.
Dies Irae, Jour de colère.
Voilà, Jour de colère, paru donc le 15 avril 2024
Maya,
aux éditions Maya. À chaque nouveau roman, une nouvelle maison d'édition, vous avez besoin...
Oui. C'est fini.
Ben oui.
Je viens de signer chez Hugo Stern pour plusieurs romans dont déjà un devrait sortir à la fin de l'année, début de l'année prochaine.
Pourquoi?
Donc ça y est, là j'ai une certaine pied bien posé maintenant dans le sol. Ça va aller mieux.
Les titres de vos romans ne laissent pas indifférents, ça c'est sûr.
D'accord.
Journal ordinaire d'un assassin pas ordinaire, ordinaire. Terre mange des morts. C'est direct et ça ne laisse place à aucune ambiguïté là.
Non, du tout. On est déjà dans le monde des gens qui sont des monstres tout simplement quelque part. Qui sont des tueurs en série, qui sont des gens qui vont voler des vies. Ça déjà, c'est limpide.
Le titre de votre...
C'est très important, ce genre de titre pour moi est très important de les donner, puisque justement, il faut que tout de suite, les gens comprennent qu'ils sont dans un roman qui va les manger, qui va les prendre au trip, quoi, tout simplement, c'est quelque chose de capital.
Le titre de votre troisième roman, donc, Dies Irae, Jour de colère, paru le 15 avril 2024 aux éditions Maya, est presque trompeur, puisqu'il s'agit de la naissance, de la vie, de la mort d'un groupe de rock de légende, comme on a pu en connaître, hein, Dies Irae, Jour de colère.
Noir Désir, par exemple.
Voilà, c'est aussi le nom d'un double album en public de Noir Désir, sorti en 1994. Le choix d'un tel titre de roman est tout sauf un hasard.
Bah bien évidemment, parce que je suis déjà, moi-même, j'ai baigné très longtemps dans tout ce milieu-là. Ce roman, déjà, toute la première partie, pour commencer, est autobiographique, parce que je suis, bon, pas à 100%, mais il y a quand même des très larges éléments de ma vie personnelle qui ont été pris par rapport à ce que j'ai vécu dans la France. Je suis originaire de Picardie, comme vous l'avez compris, donc de Saint-Quentin, exactement, qui est une ville industrielle et post-industrielle, avec malheureusement, avec les années qui ont passé, un taux de chômage qui est devenu de plus en plus abracadabrant et terrifiant. Et donc, les gens ont perdu leur travail, se sont mis dans des situations de vie sociale complètement délabrées, complexes, difficiles, à assumer la vie d'une famille, d'enfants, et d'un avenir aussi pour les gosses, pour les enfants. On les appelait les gosses, bon, la plupart du temps, quand nous étions les gosses, je me rappelle, on nous appelait comme ça. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui m'a nourri, qui m'a forcément marqué. Et ensuite, bien sûr, il y a eu le groupe de musique que j'ai créé avec des amis au lycée, et on a fait encore à la fac université, et on a créé ensuite, on a continué. On a sorti plusieurs albums, il y a eu des tournées à travers l'Europe. On a eu un succès d'estime, bon, pas un succès en termes de vente qui fut faramineux, mais quand même un certain succès. Donc il nous a permis quand même de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts un petit peu partout. Et forcément, oui, il fallait raconter cette histoire. Bon, après, je l'ai romancé à ma façon, avec ma petite griffe noire que j'aime bien. Et le terreau était là. Le terreau de l'histoire était déjà planté, était déjà mis en place. Ça, c'est clair.
Quel était le nom de votre groupe ?
Vous allez rire, Orgy, O-R-G-Y.
D'accord.
Mais on peut trouver encore des petites choses qui traînent sur Internet, mais bon, plus tant que ça.
D'accord.
Et basé à Toulon. Quand j'ai passé mes années toulonnaises, voilà, quand j'ai fait le grand bond entre le nord et le sud de la France, qui a été pour moi un choc quelque part, parce que j'ai quitté justement cette ville un petit peu venue pas sordide, un petit peu difficile, une ombre sociale complexe pour une sorte de pseudo-paradis. Pour moi, bon, à cette époque-là, c'était la mer et le soleil. Après, on s'aperçoit que la mer et le soleil a aussi un prix, et aussi un labeur de vie à porter. Mais pour moi, à l'époque, c'était superbe. Et j'ai découvert toute cette nouvelle faune musicale qui m'a forcément intéressé. Mais les études d'archéologie, tout ça, c'était quelque chose qui m'a changé littéralement.
N'en déplaise aux fans de Téléphone, Noir Désir est le plus grand groupe de rock de français de tous les temps. Ça, on ne peut pas le nier.
Bien sûr.
Vous avez une relation particulière, vous, avec la bande à Bertrand Cantat?
Mais je les connaissais, je les rencontrais, j'ai travaillé pour une radio. Et si vous vous rappelez, à l'époque, je ne veux pas faire de politique, je vais vous dire ce qui s'est passé. À l'époque, Toulon est tombé aux mains du Front National,
oui.
Comme vous savez, c'était la première ville de plus de 100 000 habitants à tomber aux mains du Front National, pardon, excusez-moi. Et nous avions sur une radio sur laquelle je travaillais à l'époque, où justement je passais des disques, etc., dont Noir Désir, bien évidemment. Nous avons décidé d'organiser une journée contre le Front National, et donc nous avons invité des groupes, et Noir Désir a répondu présent. Et donc ils sont venus faire avec Assassin, groupe de rap, et d'autres gens, une interview à la radio. On a fait aussi un concert au Zénith. On est un forum contre l'expression du racisme et de l'extrême droite. Et donc, nous avons été fortement suivis, puisqu'on a eu des échos partout en France. On est passé même au journal de 13h et de 20h, de près de sur France 3, une fois sur France 2, 0 fois sur France 1, peut-être qu'ils avaient des directives à l'époque, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc c'est pour ça, et après nous avons continué de communiquer, de nous voir, nous sommes vus plusieurs fois lors de concerts, donc il y a une relation assez, je vais pas dire forte, mais en tout cas relation presque amicale, tout cas avec eux. Voilà, après ce qui s'est passé du côté de la Lituanie, c'est son histoire, c'est pas la mienne, je ne juge pas. Voilà.
Dans Hier, si Irae, Jour de colère, vous citez des groupes cultes hein, comme les Tugs, les Beatles,
Tugs, bien sûr.
Les Clash, Sex Pistols, les Sonic Youth,
oui.
David Bowie,
oui.
Iggy Pop, les Smiths, Black Sabbath, Joy Division, les Ramones, mais aussi Léo Ferré, Jacques Brel, Lou Reed, Pink Floyd ou Patti Smith.
Oui.
C'est la culture musicale des quatre membres du groupe, c'est aussi la vôtre.
C'est la mienne, c'est complètement la mienne. tous ces disques, je les ai toujours chez moi et je les écoute toujours, toujours et encore. C'est quelque chose dans lequel je me ressource très régulièrement pour écrire et même pour vivre, parce que c'est quelque chose qui me marque. Bien sûr, mais on découvre toujours des nouvelles choses, comme dans la littérature, comme dans le cinéma, comme dans l'art en général. Mais c'est vrai que ces disques-là, ces disques comme de tous ces artistes que vous avez cités, effectivement, sont capitaux. Mais pour les yeux de beaucoup de monde, d'ailleurs.
Dire, IRA, Jour de colère, est composé de quatre garçons, comme les Beatles, comme Noir Désir, comme les Thugs.
Oui, bien sûr.
Pour vous, le rock, c'est forcément un 4.
C'est forcément une guitare, basse, batterie, chant. Voilà, point. C'est tout. Et donc ces quatre gamins, en fait, c'est aussi deux frères, déjà, les deux premiers, les membres fondateurs extrêmes du groupe, qui en fait le groupe existe déjà depuis qu'ils sont petits, en fait, quelque part dans leur tête, puisqu'ils passent la plupart de leur temps enfermés dans leur chambre à écouter justement le double blanc des Beatles. C'est quelque chose qui les a marqués à vie, ils savent le jouer par cœur, sans avoir d'instrument, ils savent le jouer par cœur, ce qui est quand même assez sympathique. Et donc après ils vont rencontrer au collège, c'est toujours comme ça que ça se passe d'ailleurs, deux amis justement, deux gars un petit peu différents qui va les embarquer vers des histoires absolument incroyables. Ils vont donc décider de créer ce groupe. Ils vont se retrouver dans les chambres des gamins, une fois chez l'un, une fois chez l'autre, à écouter des cassettes. À l'époque, il n'y avait pas encore trop les CD, et même si on avait quelques-uns, ça coûtait très cher, on ne pouvait pas acheter forcément la chaîne chez Darty ou je ne sais quel magasin de ce genre. Donc on écoutait les cassettes sur le vieux truc des parents. C'est ce que font ces gamins, justement, et petit à petit, ils vont se créer leur culture musicale et également littéraire, parce qu'ils dévorent les livres, ils sont des gens assez intelligents, finalement, et qui s'intéressent beaucoup à des choses radicalement différentes que ce que font la plupart des enfants de leur âge, ou des adolescents, on va dire plus tous les adolescents de leur âge. Et donc ils écoutent plein de choses, ils lisent plein de bouquins, et donc un jour, boum, l'idée de faire un groupe se révèle à leurs yeux, Et ben, je dirais, Jour de colère, après bien des pérégrinations, va voir le jour. Ça va commencer tout doucement par des concerts dans les bars, des rencontres assez... Comme tout le monde, en fait, on joue dans les bars pour débuter ou dans les petites MJC locales du quartier. Et petit à petit, ben, à leur grande surprise, et à la grande surprise peut-être de, aussi des gens qui vont commencer à les entourer, ben, certains succès importants va prendre. Mais finalement, assez rapidement, et au bout de quelques concerts, ils vont changer de maison de disque, ils vont trouver déjà une maison de disque, ils vont enregistrer un album, qui va commencer à bien faire, va avoir un joli succès d'estime, enfin, un premier 45 tours, après un album, après un deuxième album qui, lui, va exploser, va commencer à se vendre en masse. Et petit à petit, ben, ils vont parvenir en haut des classements d'albums, et ça va devenir un mouvement pour toute la jeunesse un petit peu désespérée à cette époque. On pourrait les comparer à Nirvana quelque part aussi, le grunge, à dimension réduite bien sûr par rapport à ce qui se passe en France. Mais on pourrait les comparer quelque part à un phénomène équivalent à Nirvana, le groupe qui vient plus ou moins de pas nulle part, mais qu'on connaissait très peu, qui vient plus ou moins d'underground de tout ce milieu-là et qui explose. C'est ce qui se passe pour eux, et ça va engendrer des situations qui vont devenir personnel dans leur vie, dans leur quotidien, ils vont devenir très difficiles, ils vont bien sûr côtoyer la drogue, des histoires personnelles, enfin bon, vous avez lu le livre, vous savez très bien que c'est très noir quelque part au fond, et ça se termine dans un drame terrifiant.
Avec tous les excès que vous racontez, comme si vous aviez envie de remettre au goût du jour le triptyque Sex, Drugs and Rock'n'Roll parti en désuétude depuis.
Pour les drogues, non, bien sûr, mais j'ai toujours été dans cette idée-là, enfin, il faut dire comme ça, il faut dire les choses. Quand on parle de rock, on va pas dire qu'ils buvaient de la lavande et ils mangeaient du cornflakes. Enfin, il faut être un peu honnête aussi. C'est un milieu qui a quand même... c'est pas qu'une imagerie, c'est aussi une certaine vérité. Enfin, pas pour tous, bien sûr, mais c'est clairement limpide.
Mais c'est peut-être une image qui est un peu en désuétude aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est vrai. On essaye de... Oh, puis en même temps, c'est vrai que les gens aussi ont perdu l'habitude d'acheter des disques, pas forcément d'acheter des livres, mais en tout cas des disques de vrai rock. Les gens, ça fait devenir de plus en plus aseptisé. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de téléchargements. Je n'ai rien contre, mais je télécharge pas. Je continue d'acheter des disques en format CD, parce que je suis la génération des CD, et j'achète que dans ce format-là. Et donc, les gens sont aseptisés. C'est tout propre, très tout consommable, rapide. Il n'y a plus de Bowie, il n'y a plus de héros, quelque part. Il n'y a plus que des groupes que l'on vend rapidement, et que l'on oublie aussi, pas aussi vite, mais au moins très très rapide.
Dierce et Aé, Jour de colère, le chant grégorien qui illustre la mort a de tout temps inspiré le monde entier, et pas seulement les religieux de tous bords. La musique, le cinéma, les jeux vidéo ont souvent utilisé ou repris les mots, les notes et l'esprit de ce poème. La littérature n'échappe pas à ce phénomène. Ce thème de la mort est très présent dans vos romans. Elle vous a toujours intrigué, questionné.
Je crois que c'est quelque chose qui se passe de notre côté, de ce qu'on peut connaître au quotidien. Donc, forcément, oui, ça nous attire. On a envie de savoir un petit peu comment ça peut se passer, de quelle façon on peut le concevoir. C'est quelque chose qui est assez important dans la façon, justement, de voir sa propre vie aussi dans son reflet. Jusqu'où va-t-on s'arrêter et que va-t-il se passer après? C'est une image assez simpliste, mais c'est complètement ça. Je pense qu'on a envie de se propulser vers... on aimerait bien le savoir, on aimerait bien. C'est justement la grande question éternelle que chacun se pose. Que se passe-t-il après, avant, après, pendant et surtout après? Voilà, se plonger dans cet univers-là de mort, c'est fatalement enfin, passionnant. C'est justement beaucoup moins lugubre que ce que les gens pourraient bien croire. Très intéressant d'écrire sur la mort, d'écrire sur les gens qui tuent, parce que j'écris énormément sur les gens qui tuent. Sur les gens qui enquêtent, sur les gens qui tuent, effectivement aussi. Et souvent, ils marchent en relation. Dans le premier roman, c'est clair qu'il y avait un juge qui devient, pas amoureux, mais c'est un peu comme dans Le juge et l'assassin, c'est ce film merveilleux. Il devient complètement un petit peu obsédé, en même temps amicalement proche de la personne qui est pourtant un monstre hallucinant et halluciné. De même, dans Terre Mange tes morts, c'est une relation très terrible qui se passe entre la Sophie de Broglie, la fille, qui d'ailleurs va revenir bientôt, et l'assassin, qui est l'ange déchu, qui martyrise les gens. Donc oui, la mort, c'est forcément passionnant. C'est pas non plus lugubre, c'est pas non plus malsain. Je crois qu'il n'y a absolument aucune idée malsaine de parler de la mort.
Vous rendez aussi un hommage aux radios locales et à ces animateurs bénévoles et passionnés à travers Radio Éphémère et son émission alternative Session. Alors vous aussi, les radios locales ont bercé votre jeunesse et puis vous ont forgé cette culture rock.
J'ai travaillé dans des radios locales. J'ai fait des émissions, plusieurs émissions, notamment à Toulouse, une à Toulouse aussi, à Paris aussi, enfin donc un peu partout où je suis passé. J'ai mené ma grande carcasse dans les radios locales, et c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est un petit peu en train de disparaître, mais c'est plus tout la même fonction, plus tout la même approche des choses. C'est vrai que ça permettait justement de faire des émissions qui passaient des choses différentes. C'est une alternative, complète aux grandes radios qui passaient des choses un petit peu commerciales, faciles, simples d'accès. Alors on va dire plus simple, plus populaire.
Le rock en France doit beaucoup, je trouve, aux radios locales, plus que les soi-disant grandes radios, hein, France Inter et Bernard Lenoir, peut-être mis à part.
Oui, le noir a toujours eu un rôle un peu sympathique de grand-père directeur, quelque part. Il mettait un petit peu en avant des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter. Moi, j'ai commencé petit, j'ai découvert cette émission-là. C'est vrai qu'elle m'a transporté, bien sûr. C'était pourtant une grosse radio. Et donc après, bien sûr, tous les gamins et toutes les filles qui aimaient cette musique avaient envie de passer de leur côté, également de notre côté du micro, pour lancer l'aventure, lancer leur disque et les faire découvrir à des potes, à des gens, et après à des publics plus larges.
Votre quatrième roman, Jusqu'à l'os, est paru aux éditions Sans Pitié le 10 juin 2024. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce nouveau roman ?
Alors là, on tombe dans la noirceur la plus absolue possible. Déjà, j'ai commencé par l'éditeur. Déjà, il faut savoir qu'en France, j'avais envoyé ce roman. Déjà, mon premier éditeur, Lazare et Capucine, l'a complètement refusé pour plein de choses, parce qu'ils étaient beaucoup plus proches de la spiritualité. Au départ, c'était un peu leur spécialité. Donc, c'est vrai que récupérer un auteur comme moi, qui écrit dans le noir, terrifiant, ça pouvait être intéressant dans le sens de la spiritualité et religieux. Mais là, ils ont fini par dire stop. Donc il a fallu que je trouve une autre maison. Je l'ai envoyé dans plusieurs, de très nombreuses maisons. Il a refusé. Puis hop, une maison comme ça, un matin, une bonne nouvelle en allumant Internet. Une maison très sérieuse, canadienne, québécoise, édition Sans Pitié, m'a dit, écoutez, on a lu votre manuscrit, on vous propose un contrat comme éditeur, on va le publier chez nous, ici au Canada. D'accord. Donc il y aurait une sortie en France. Donc il y a une sortie en France, malheureusement, que sur Amazon et quelques librairies qui sont affiliées à la maison du Canada. On peut le mettre sur Amazon, on peut le trouver. Et bien, et très prochainement, je pense, sur Fnac, un petit peu sur toutes les plateformes de distribution. Donc c'est un roman qui traite en fait de la déportation massive de population suite à une guerre civile qui a explosé dans un pays qui est imaginaire, qui pourrait être le Guatemala, qui pourrait être l'Afrique, n'importe quel pays d'Afrique, qui pourrait être l'Asie du Sud-Est, qui pourrait être chez nous, qui pourrait être l'Amérique. Si on se réfère par exemple au film de Civil War qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça pourrait être exactement ce qui suit le film. Donc des gens vont prendre le pouvoir et vont décider de la vie et de la mort d'autres personnes de leur pays, de leur région, de leur ville, de leur village, leurs frères, leurs mères parfois. Et donc je décris ça d'une façon, non pas comme un roman classique, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de gens qui parlent, il y a juste un descriptif des choses, des lieux, des endroits où quand ça se passe dans un château qui est situé au milieu d'une, on pourrait dire, d'une lande isolée, bien évidemment, et autour de ce château gravitent des satellites sur des camps de travail divers, et des crématoires aussi, bien sûr. Donc pour se débarrasser des corps, c'est un grand problème, c'est de se débarrasser des corps. C'est très compliqué de se débarrasser des corps de milliers de personnes. Donc il y a ça, et donc on suit la vie au quotidien sur plusieurs journées, avec l'appel de matin, l'arrivée déjà au tout début du roman, de gens qui arrivent dans le château après avoir passé un voyage abominable à travers leur pays, dans des moyens de transport qui peuvent être, on peut imaginer le train, les camions, enfin, et au début les chercher un matin chez eux, et on leur a dit votre vie va s'arrêter là, ou du moins vous allez devenir des esclaves. Et ils deviennent des esclaves en arrivant dans le château. Donc le livre raconte plusieurs jours, et également plusieurs passages dans les camps. Sur le camp et dans les camps de travail en proximité. Donc on décrit la carrière, on décrit l'hôpital, on décrit la maison, le du maître aussi, les gens qui vont y travailler, etc. etc. C'est un livre très dur. Ensuite, on a une seconde partie qui fait le poids un petit peu des personnes. On essaye un petit peu de faire le portrait, de tracer le portrait des gens qui sont passés aussi bien donc des matricules, parce que bien évidemment, ils perdent leur nom et leur prénom. Et on leur tatoue d'ailleurs comme à la mauvaise époque. La Seconde Guerre mondiale, un numéro sur le bras. Et donc, on parle de leur parcours, donc avant et après le camp, s'ils ont survécu ou s'ils sont morts. Et également, les gens qui sont de l'autre côté de la barrière, qui sont les monstres, les loups, comme je les appelle dans mon livre, les loups. Et une troisième partie qui fait le bilan en termes de mort et de ce qui s'est passé pour certains des survivants. C'est un roman rapide, hein, il fait 137 pages, très, très lourd à lire, mais j'ai eu des retours assez, pour le moment, très nombreux retours. De gens qui sont très touchés par ce livre. Ça m'a quand même fait une surprise assez étonnante. Je m'attendais à être détruit, je ne vais pas vous mentir. Je m'attendais à être littéralement détruit par des gens qui m'ont dit. On m'a quand même sorti que c'était quand même pas la littérature. Certaines personnes qui ne voulaient pas publier le livre, que ce n'était pas la littérature. Enfin bref. Et donc là, contrairement à ce que je pensais, des chroniqueurs et des lecteurs, donc c'est deux sortes de catégories de gens qui ont lu mon livre, pour le moment, on le trouve admirable. Donc ça me touche. Pour le moment, il va très bien, il se vend convenablement, je ne peux pas vous donner de chiffres, je n'ai pas encore d'idée, mais il se vend apparemment très bien. Mon éditeur, pour la première fois de ma vie, fait un travail de son côté là-bas au Québec, apparemment très, très prenant et très bien mené. Donc tout va bien pour lui. C'est pour ce livre dur qui était inspiré par plein de choses sinistres, qui était inspiré bien évidemment par Shoah, bien sûr, de Lanzmann. bien évidemment, Lanzmann, Shoah, pour les films, pour le documentaire. Pour les films, La Zone d'intérêt, un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui avait un prix à Cannes, qui était terrible, un film anglais, qui parle justement de la vie d'une famille, des personnes qui géraient le camp d'Auschwitz, donc vous imaginez un petit peu, ça, on voit leur vie au quotidien. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de parler de la vie au quotidien de ces jours-là aussi. C'est capital de montrer cette fin du miroir aussi. Et ensuite, bien sûr, la littérature, Georges Izernaud, La peau et les os, justement, encore un parallèle avec Noir Désir. Georges Izernaud, j'avais des fait un petit peu à cause de lui, si j'ai écrit ce livre, en fait, mais ça remonte déjà à début des années 90. Il y avait Serge Tessoguet, ou fin des années 90, pardon, 98. Serge Tessoguet qui avait mis en musique, et chanté, enfin, raconté justement le livre La peau et les os. Donc de Izernaud, il avait dit voilà ça, je veux le faire, il l'avait fait, et l'album était admirable. Il avait sorti aussi un deuxième bouquin, mais il avait été interdit pendant des années, donc les wagons à vaches, il avait été interdit pendant des années, puisque ce livre, bien sûr, parlait très clairement, un peu comme Primo Levi, si c'est un homme, parlait un peu très clairement de ce qui se passait dans les camps, de la Shoah, et bien plus encore, c'était tellement violent que les gens avaient du mal à le lire. Et j'ai voulu rendre ça justement la violence. C'est un livre, un roman, qui parle beaucoup de la violence, de la violence dans les camps, de la violence relationnelle entre les loups, et finalement on s'aperçoit entre les loups et les matricules, et finalement on s'aperçoit qu'ils sont tous prisonniers, finalement, même s'ils sont loups, même s'ils sont dominateurs, ils sont même s'ils ne meurent pas.
Dans Jusqu'à l'os, vous dressez un portrait sans concession, enfin généralement dans tous vos romans, hein, vous dressez un portrait sans concession de l'être humain, le proverbe « l'espoir fait vivre » n'a pas sa place chez vous, en écriture.
Non, si, l'espoir fait toujours vivre, parce qu'il y a toujours au bout du tunnel une petite lumière d'une petite bougie qui scintille.
Petite alors,
toute minuscule, elle existe, parce que dans le roman, je dis que des gens survivent, donc c'est que quelque part, on peut s'en sortir. On croit qu'on... D'ailleurs, l'album, le disque, tu vois, vous voyez toujours le rapport à la musique, on croit qu'on s'en est sorti. C'est comme ça que ça nomme le disque de Tessoguet, à l'époque. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je pense que ça aurait été une bonne idée de roman, mais enfin, je le contacte pour le copyright.
Vous avez sorti 4 livres en moins d'un an et demi. Comment faites-vous pour tenir le rythme?
J'écris tous les jours, je me mets devant mon ordinateur, et tous les jours, dès que j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, dès que c'est possible, même un petit peu moins parfois, j'écris selon les idées qui viennent en tête. Là, je suis en train d'écrire d'ailleurs un nouveau manuscrit, qui s'appelle Royaume, je peux le dire. C'est son nom de travail, je ne sais pas si ça s'appellera comme ça à la fin, mais il y a des chances. Donc tous les jours, j'écris, c'est quelque chose d'important, l'écriture, c'est quelque chose de capital, parce que les mots sont là, ils sont depuis longtemps dans mon esprit, et là, maintenant, depuis quelques années, ils ont la chance de pouvoir sortir, donc il faut tant que la source ne se tarie pas, il faut les faire sortir. Et d'ailleurs, j'ai encore une actualité assez intéressante qui se met en place, puisque j'ai signé un contrat cette fois-ci pour... Mais je resterai aussi chez mes Québécois pour des textes un peu plus durs, si je peux me permettre. Je resterai chez mes Québécois pour... J'aurais déjà proposé un nouveau manuscrit pour les prochaines, d'ailleurs, qui s'appellera Possession. Je pense qu'ils vont le prendre, je sais pas, on verra. Ce sera la bonne ou la mauvaise surprise. Et là, j'ai un contrat pour plusieurs romans, pour 2 déjà. Donc, j'ai la belle petite maison, ils sont pas énormes, mais ils sont là depuis longtemps en France, depuis une vingtaine d'années. Hugo Stern, donc les éditions Hugo Stern, qui sont basés à Lyon, et là, ils m'ont récupéré pour 2 romans déjà. Donc Asphalt, qui lui sortira, si on n'a pas de date de sortie, je pense la fin d'année, peut-être la début d'année prochaine, et qui est en course, mais bon, je ne l'aurai pas, mais bon, il est en course pour le prix du Quai des Orfèvres, 2024-2025. Et il y a Osmos qui sortira, lui, l'année prochaine, mais je pense plutôt à la fin de l'année prochaine, qui sont des thrillers noirs, glaciales. Et on va retrouver d'ailleurs les deux personnages clés de Terre j'étais mort. Vont devenir des personnages récurrents, finalement, vous voyez, comme quoi chaque auteur arrive à avoir des personnages récurrents. C'est mon cas. Il y avait Adasberg chez Vargas, c'est le premier que je trouve, il y en a plein d'autres. Et ben là, j'ai Sophie De Broglie et Davos, que l'on va retrouver dans des aventures assez dures, une fois de plus.
Côté salon et séance de dédicace, vous avez le temps et la possibilité de venir présenter vos romans en France?
Oui, je suis venu il n'y a pas très longtemps, j'étais au mois de mai, j'étais à Marseille, au salon... Printemps du Polar à l'Estac, à Marseille. Je suis venu à Perpignan aussi faire une séance de dédicace. Là, j'ai dû devoir recontacter une chef de librairie de librairie en France qui s'appelle Charlebagne. Ils veulent m'inviter pour faire partie d'un vin de librairie, pour faire différentes étapes sur le département du Var, dans plusieurs villages, pour faire vendre des bouquins et faire des dédicaces.
Et vous qui habitez en Espagne, vous cherchez forcément à faire éditer vos romans dans la langue de Cervantes?
J'aimerais bien, notamment en catalan, j'habite en Catalogne, et même en castillan, bien sûr, mais en Catalogne, ça serait bien, à moyen terme, de trouver une petite maison, une petite structure. J'ai contacté là, une structure qui est sur Perpignan, ou dans la région, je les relance, ils m'ont pas encore répondu, mais bon, c'est l'été, je suis pas pressé, mais c'est vrai que oui, à moyen terme, ça serait intéressant d'avoir une sortie aussi ici, bien sûr.
Bien, nous évoquions les séances de dédicace, il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
À quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Pascal, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Mon dernier coup de cœur littéraire, ouais. Là, c'était un bouquin que j'ai sorti, que j'ai lu chez Gail Meister, qui est un livre américain sensationnel que personne ne connaît, qui s'appelle, je vais faire tenir un peu le suspense, qui s'appelle Le sillage de l'oubli, certain de chez Bruce Machard, qui est tout simplement exceptionnel, qui est phénoménal, sorti chez la très belle maison Gail Meister il y a déjà quelques temps, mais qui vaut vraiment la peine. Voilà, c'est un bouquin à noir, je peux vous lire la quatrième de couverture, c'est un peu le but, j'imagine, Le sillage de l'oubli. Texas, 1895, un propriétaire terrien voit la seule femme qu'il a jamais aimée mourir en mettant au monde leur quatrième fils, Karel. Vaincu par la douleur, l'homme entraîne ses enfants dans une vie austère et brutale. Pour lui, seul compte désormais ses chevaux de course, montés par Karel et les paris qu'il lance contre ses voisins pour gagner toujours plus de terre et de l'argent. Mais l'enjeu est surtout lorsqu'un propriétaire espagnol propose un pari insolite qui engage l'avenir de quatre frères. Karel s'élance dans une course décisive avec pour laquelle une jeune fille qui déjà l'obsède. Premier roman éblouissant, Le siège de l'oubli a valu son auteur des comparables à Faulkner ou Cormac McCarthy. Ce n'est pas une découverte, c'est un choc, un chef-d'œuvre, dit le Figaro Magazine. Je vous le conseille, Bruce Machard. Le sillage de l'oubli. Quatrième de couverture, c'est ce que vous avez dit.
Exactement. Quand on sortit, il y en a tellement. Notons le dernier roman de Philippe Ridet, Bande de héros aux éditions Les Équateurs, et qui sera mon invité donc le jeudi 19 septembre 2024. Le dernier polar de Daniel Martinange, Les Malfaisants aux éditions La Joanie. L'enquête de Benoît Coquart, Ceux qui restent aux éditions La Découverte. Le nouveau roman de Vera Buck aux enfants de loups aux éditions Gallmeister. Le nouveau livre de Lily Brooks, Dalton, Pirates de lumière, toujours aux éditions Gallmeister. Et le troisième roman de Ludovic Manchette et Christian Niemek, À l'ombre de Winnicott aux éditions Le Cherche Midi éditeur. Pour terminer l'émission, les dates de séances dédicaces. Pascal, avez-vous des séances de dédicaces à annoncer prochainement?
Je suis en train de mettre en place sur Perpignan. J'ai rendez-vous avec un groupe de lecture à Perpignan très prochainement. Ça sera fin septembre. Je suis en train de voir aussi pour faire quelques trucs autour. Donc oui, il y a des choses s'organisent, mais je n'ai pas encore de date précise. Je vous les ferai passer le moment venu. Mais ça va se mettre en place pour septembre, octobre.
Pour les séances dédicaces, je vais vous les annoncer. Ça va peut-être vous parler peut-être des noms que vous connaissez. Le samedi 7 septembre à la bibliothèque municipale à Lisieux, dans le Rhône. C'est une rencontre avec Stéphane Pétrier et en concert acoustique à 10h. C'est le membre fondateur du groupe Le Voyage de Noz, un groupe de rock des années 90 du côté de Lyon, et qui sera avec nous le 12 décembre 2024 dans l'émission. À la salle des fêtes, le Deschaux, dans le 39, c'est le salon L'Automne sera noir. C'est un salon du polar de 14h.
Je suis nommé chez eux.
C'est vrai ?
Oui, le prix de la vivre, c'est eux.
D'accord. Donc de 14h30 à 18h le samedi et puis le dimanche de 10h à 18h, il y aura Christophe Foyer, Stel Tarot, Daniel Martinange, Laurent Guillaume, Jean-Michel Le Boulanger, Sébastien Julien, Didier Esposito et Florent Marotta. Le mardi 10 septembre à la librairie La Madeleine à Lyon, Maud Ventura de 19h15 à 21h et le jeudi 19 septembre 2024 au domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse, Philippe Ridet de 19h à 21h. Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Pascal Alliot, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
C'est moi qui vous remercie, surtout de m'avoir permis de m'exprimer sur ce que je fais, tout simplement. Donc un grand merci chaleureux et honnête.
Rappelons que votre troisième et quatrième roman d'hier,
Désiré, jour de colère,
et Jusqu'à l'os sont parus respectivement donc le 15 avril 2024 aux éditions Maya et le 10 juin 2024 aux éditions Sans Pitié. On peut se les procurer où, sans oublier vos autres romans?
Maya à peu près partout dans toutes les librairies et dans toutes les plateformes de vente. Et pour le moment, vu que mon éditeur est québécois pour l'histoire de Jusqu'à l'os, on peut le trouver surtout sur Amazon et quelques librairies proches d'eux et les plateformes.
On peut suivre votre actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux. On en apprend plus sur la musique que sur les romans, en tout cas.
Bien sûr, parce que c'est le but.
Des pochettes d'albums, il y en a. Hein.
Et, oui, je sais.
Et pas forcément du neuf, hein. Essentiellement
non,
quand même
non,
de
pas
l'ancien.
Du tout,
hein.
Pas du tout. J'ai du mal avec le neuf. Le neuf me rend un peu l'arcote. Il y a des bonnes choses.
Il y a des bonnes choses quand même. Bah oui. Alors le prochain invité de Rondement de Garde, je le disais tout à l'heure, le jeudi 19 septembre 2024, sera donc le romancier saône-et-loirien de naissance, burgien de cœur, Philippe Ridet. Il présentera son dernier ouvrage, Bande de héros, paru le 28 août 2024 aux éditions des Équateurs. Dans ce roman d'une nuit et d'un demi-siècle, ciselé au scalpel d'un style iconique et tendre, c'est une génération gâtée, celle des futurs boomers qui se regarde dans le miroir de ses occasions manquées. Un dernier verre pour la route, le dernier disque avant que l'aube ne se lève, comme un rappel à l'ordre. Eh bien Pascal, bonne chance pour la suite de vos aventures de romancier.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, bonne écriture.
Et au plaisir, de toute façon, j'espère qu'on pourra reprendre rendez-vous pour la suite, justement, et parler de ce qui arrive.
L'année prochaine.
L'année prochaine, tout à fait.
Bonne écriture, et puis à bientôt sur Radio B.
À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.